matin.
Le journal Fanny Marceau, bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Avant la rue, demain, on va y revenir dans un instant. La bataille sur la retraite à 64 ans arrive en commission à l'Assemblée aujourd'hui. 7000 amendements déposés, essentiellement par la NUPES. Selon les informations d'Europe 1 ce matin, une quarantaine de députés de la France Insoumise pourraient venir perturber l'examen du texte.
Oui, le pays bordélisé par LFI, selon les mots de Gérald Darmanin et l'exécutif qui se demande comment s'en sortir. Le président, lui, a sa petite idée depuis plusieurs mois. J'axerai la dissolution de l'Assemblée et le retour aux urnes avant la fin du mandat.
Oui, Emmanuel Macron réfléchit à dissoudre l'Assemblée. Ce n'est pas prévu pour tout de suite, mais clairement, l'entourage du chef de l'État est quasi unanime en coulisses. Le président actionnera cette option avant 2027, assure un conseiller. Au mieux, selon un stratège du palais, ce serait l'occasion de retrouver une majorité absolue dans l'hémicycle. Au pire, et c'est l'hypothèse jugée la plus probable, le RN remporterait une majorité de sièges. Matignon reviendrait alors à Marine Le Pen. Si elle accepte, c'est le meilleur moyen de l'affaiblir à l'approche de la présidentielle, juge ce conseiller qui poursuit. Si elle refuse, ça montrera qu'elle ne veut pas le pouvoir. En attendant, cette petite musique a l'avantage pour Emmanuel Macron de maintenir la pression sur l'ensemble de l'échiquier politique, à commencer par les candidats à sa succession, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, François Bayrou, qui dans un tel scénario n'aurait d'autre choix que de se concurrencer afin d'obtenir un maximum de sièges pour leurs partis respectifs. La dissolution, c'est l'arme nucléaire, assume un proche du président. Reste qu'un échec de la réforme des retraites au Parlement pourrait contraindre le chef de l'État à actionner son plan beaucoup plus tôt que prévu.
Jacques Serret, en direct pour Europe 1.
Alors en attendant, la première ministre s'est montrée particulièrement ferme. Hier, la retraite à 64 ans, ce n'est plus négociable, déclare-t-elle.
Les syndicats y voient une provocation alors que se prépare demain l'acte 2 de la mobilisation contre cette réforme des retraites. Jusqu'à 300 rassemblements prévus. Mardi noir en vue dans les écoles et les transports. Seuls 2 TGV sur 5 devraient circuler sur l'axe nord. 1 sur 2 dans l'est et le sud-est. 1 sur 4 vers l'Atlantique et 2 Ouigo sur 5. Objectif pour l'intersyndicale, frapper encore plus fort que le 19 janvier dernier où plus d'un million de personnes avaient défilé dans les rues, Barthélémy Philippe.
Oui, le défi est de taille, mais les syndicats espèrent une mobilisation encore plus forte que le 19 janvier, à l'image de François Omeril, le patron de la CFE-CGC.
On espère toujours faire mieux. On fera au moins équivalent.
Numéro 1 de l'UNSA, Laurent Escure compte sur les Français pour se mobiliser.
Là, il faut que ce soit plus fort. Nous, à l'UNSA, on voudrait que le soutien des Français à cette mobilisation se traduise par encore plus de personnes dans la rue. On a un ras-le-bol qui s'accumule parce qu'il y a eu d'autres mesures qui étaient néfastes socialement. Et là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Pour le secrétaire général de Force ouvrière Frédéric Souillot, ce qui compte, c'est de maintenir la pression sur l'exécutif jusqu'au retrait de la réforme.
On ne sera pas là pour se compter, mais pour faire reculer le gouvernement. Le gouvernement, au bout d'un moment, sera bien obligé de nous entendre. Une majorité de citoyens est contre, la totalité des organisations syndicales, et on va continuer.
Et pour les syndicats, l'amplification du mouvement passe par la réussite de cette deuxième journée de manifestation. Les représentants de l'intersyndicale se réuniront juste après pour discuter de la suite des actions.
Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Notez qu'aujourd'hui déjà, les lycées seront perturbés par la mobilisation des élèves. Les transports routiers entrent également en grève aujourd'hui.
Oui, à partir de ce soir, 19h. Autre question posée par l'actualité. Comment lutter contre le racisme, l'antisémitisme, les discriminations en tout genre? Elisabeth Borne présente ce matin les 80 mesures d'un nouveau plan gouvernemental.
Testing systématique sur les discriminations à l'emploi, création d'outils avec des plateformes numériques et les influenceurs, et puis la possibilité d'émettre un mandat d'arrêt en cas d'infraction raciste ou antisémite. Objectif, selon la Première Ministre, mieux sanctionner les auteurs de propos ou d'actes inacceptables et toujours mieux accompagner les victimes.
Il est 8h05 sur Europe 1. Ce sont des commerces qui ont pignon sur rue. Vous vous y rendez peut-être tous les jours. Vous ne vous en doutez peut-être pas. Mais certains de ces commerces sont les vitrines légales des triades chinoises.
Et elles s'allient avec d'autres mafias, elles contournent la douane et elles réinjectent l'argent sale des trafiquants de stupéfiants dans l'économie française. C'est une information Europe 1. William Molinier, vous avez pu consulter une note du renseignement criminel qui estime que ces triades sont une menace élevée et qu'elles ont su se rendre incontournables.
Oui, en 15 ans, la mafia chinoise est devenue une gigantesque machine à blanchir les billets maculés de drogue et de sang. Les Chinois exfiltrent le cash encombrant des dealers des cités. Ils donnent des coups de main au milieu corse et nouent des liens avec les cartels colombiens. Sont eux aussi qui parfois rémunèrent les travailleurs sans papier sur les chantiers. La mafia chinoise se dissimule derrière l'activité. activités marchandes de la diaspora en France, bar tabac, PMU, centre grossiste de textiles. Les propriétaires de ces entreprises sont aujourd'hui des jeunes Français d'origine chinoise, tout du moins sur le papier, car la gestion est clanique, dominée par la figure du père, qui n'apparaît presque jamais dans les documents officiels. Des business à la durée de vie très courte, et dès qu'un réseau est démantelé, un autre prend immédiatement le relais.
Mais William, la police française semble en connaître quand même des pans entiers sur les triades chinoises. Pourquoi leur trafic perdure-t-il ?
Eh bien parce que le gouvernement chinois investit dans 14 ports européens depuis 2013. Il a des parts à Dunkerque, au Havre et à Nantes. Et il profite de la saturation du vecteur maritime. Les douaniers ne peuvent contrôler que 5% de la marchandise pour des questions de fluidité commerciale. Résultat, des conteneurs sont déclarés à 8000 euros. Valeur réelle, 200 000 euros. Chaque année, 10 milliards d'euros de manque à gagner en TVA et en droits de douane pour l'État français. Une source policière y voit là un pillage à grande échelle, voire une prédation discrètement orchestrée depuis Pékin.
William Molinier.
Enquête complète à retrouver sur europe1.fr et votre application Europe 1.
Surtout, ne pas alimenter l'engrenage de la violence. L'appel au calme d'Emmanuel Macron après les attentats qui ont fait 7 morts à Jérusalem-Est ce week-end. Une escalade entre Israël et Palestine que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken va tenter d'apaiser lors de sa visite à Jérusalem cet après-midi.
Alors sur place, en Israël, plusieurs élus craignent que l'on en arrive à une nouvelle intifada, comme il y a 20 ans, comme il y a 40 ans aussi. Mais qu'est-ce qu'une intifada ? C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1, il est signé Caroline Baudry.
Intifada est un mot arabe, il signifie soulèvement et désigne les deux révoltes contre l'occupation israélienne en Cisjordanie et à Gaza. La première éclate en 1987, elle est appelée « guerre des pierres » en référence aux pluies de projectiles lancées par des jeunes palestiniens sur les militaires israéliens. En 1993, les accords d'Oslo mettent fin aux violences. La poignée de main entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin est historique. Mais 7 ans plus tard, alors que le processus de paix échoue, le chef de la droite israélienne, Ariel Sharon, se rend sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Les Palestiniens l'accusent de provocation, la zone s'embrase. Les ceintures d'explosifs et roquettes remplacent les pierres. Israël répond par une grande offensive. Les violences s'arrêtent en 2005 avec un bilan 4 fois plus lourd que la première intifada. 4700 morts, dont 80% de Palestiniens.
Caroline Baudry.
Et puis le tuto de la rédaction d'Europe, c'est la notice de l'info. Tous les matins dans votre journal de 8h. Dans l'actualité également, au moins 4 morts, 6 blessés en Ukraine hier après de nouveaux bombardements sur Kherson et Kharkiv.
Un hôpital, un bureau de poste, une gare routière ont été endommagés à Kherson dans le sud, selon les autorités ukrainiennes. Bombardement également à Kharkiv dans l'est du pays. Hier, lors d'un entretien avec son homologue chilien, le chancelier allemand a rappelé que la guerre en Ukraine ne se transformera pas en conflit entre la Russie et l'OTAN. Son pays, dit-il, ne le permettra pas.
Et puis attention, c'est peut-être une bombe. L'audit sur les méthodes de management au sein de la Fédération française de foot et va être remis aux dirigeants de la 3F aujourd'hui.
Oui, lancé par le ministère des Sports après les accusations de harcèlement sexuel et moral à l'encontre du président Noël Le Graët. 3 mois et demi d'enquête et des conclusions qui sont très attendues, Cyril de la Morinerie.
Oui, après un travail de longue haleine, des dizaines de salariés auditionnés, c'est l'heure de vérité. Noël Le Graët, visé par des accusations de harcèlement sexuel et moral, va prendre connaissance de ce pré-rapport. Le président de la fédération, mis en retrait de ses fonctions, aura 10 jours pour formuler ses éventuelles remarques au ministère des Sports. Alors si rien n'a fuité, on sait que l'enquête a été longue, preuve que tout a été passé au peigne fin. L'objectif est de savoir si les faits avancés dans une première enquête journalistique sont avérés, à savoir une ambiance toxique à la fédération, un management autoritaire de la directrice générale Florence Ardouin et une attitude déplacée de son président envers les femmes. Ces derniers jours, de nouveaux témoignages se sont ajoutés au dossier. Une ancienne collaboratrice de Noël Le Graët l'a comparé à un chasseur. En attendant, le rapport définitif sera rendu mi-février. Les dirigeants du football se réuniront pour décider du sort du Breton de 81 ans. Noël Le Graët, à la tête du football français depuis 12 ans et qui clame depuis le début son innocence, pourrait être poussé vers la sortie.
Cyril de la Morinerie. Et puis en handball, médaille d'argent et grande déception pour les Bleus hier en finale de championnat du monde. L'équipe de France s'est inclinée 29 à 34 face au tenant du titre, le Danemark, qui l'emporte pour la 3e fois d'affilée.
Mince, vivement la revanche.
Ah oui. Les Jeux Olympiques peut-être.
Voilà, effectivement. Les Bleus sont tenants du titre olympique. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant, restez avec nous, la ministre déléguée chargée des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, Olivia Grégoire, est l'invitée de Sonia Mabrouk. À tout de suite.